La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices. Je suis Patrick Saporito de l'église protestante baptiste de Cahors. Vous est-il déjà arrivé que votre propre famille vous ferme la porte? Comment vous êtes-vous alors senti? Pas facile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est arrivé à Jésus, avec l'église de Laodicée, la septième et dernière des églises de l'Apocalypse. Je vous invite à lire dans la Bible le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen donc jusqu'ici la parole de Dieu. De ce texte ressort cette vérité que l'Église du Christ reste la propriété du Seigneur, même celle tiède qui veut se passer de lui. C'est ce que je vous propose de voir en deux points. Premièrement, nous verrons quelles sont les caractéristiques d'une église tiède. Et deuxièmement, nous verrons comment une église tiède peut redevenir bouillante. Déjà le contexte donc de cette lettre. L'église de Laodicée n'est pas accusée d'immoralité ni d'apostasie. Elle n'est pas non plus persécutée. Son problème se résume à deux mots, indifférence et tiédeur. Pourtant, on n'avait pas été indifférent envers elle. Les églises du 1er siècle se soutenaient réciproquement. L'église de Laodicée avait été soutenue, encouragée par l'apôtre Paul et par l'église de Colosse, comme en témoigne la lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 16 dans la Bible. Donc, Paul avait le même souci pour l'église de Laodicée que pour l'église de Colosse. Il aimait l'église, parce que c'est l'église du Seigneur, quel que soit son état. Et voici ce qu'il dit dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 et 2. « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ. » Fin de citation. Malgré tous ces soins reçus, cette lettre adressée à la dernière des sept églises de l'Apocalypse est sans doute la plus difficile à avaler, et pour cause. Cette église de Laodicée donne la nausée au Seigneur parce qu'elle est tiède. L'église comprenait bien ce que ça signifiait, car la ville de Laodicée était alimentée par un très long aqueduc qui délivrait aux habitants des eaux tièdes et sales et qui donnait envie de vomir. Comme pour les autres lettres, le Seigneur éprouve la foi des fidèles par leurs œuvres. « Je connais tes œuvres », verset 15. Mais, contrairement aux autres lettres où le Seigneur avait relevé au moins une qualité pour chaque église dans leurs œuvres, eh bien ici, aucune œuvre ne reçoit son approbation. Alors une question se pose. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est plus la propriété du Seigneur? Est-ce que le Seigneur va rejeter cette église qui est pourtant sienne? Mais déjà, arrêtons-nous sur son problème de tiédeur. Premier point donc, quelles sont les caractéristiques d'une église tiède? J'aimerais vous poser une question. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes repris par un frère ou une sœur en Christ de l'Église, ou par le pasteur, voire même par un non-croyant, à l'autorité reconnue. Je pense à des gendarmes qui vous verbalisent parce que vous avez dépassé les limitations de vitesse. Est-ce que vous vous dites « Mais de quel droit? Pour qui se prend-il » Réagissez-vous en vous disant que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas se mettre en colère contre moi, je suis son enfant. Il m'aime tel que je suis. C'est vrai, il nous aime tel que nous sommes, mais il ne veut pas nous laisser tel que nous sommes. Nous avons du mal à voir Dieu corriger son Église, n'est-ce pas? La preuve en est que l'Église de Laodicée était aveugle. C'était trop dur pour elle de voir son état. Un commentateur réputé a même écrit que les versets 18 à 20, où Dieu frappe à la porte, s'adressent à des non-chrétiens. Mais, à bien y regarder, ça s'adresse bien à l'Église. Cette lettre, comme les autres, est là pour nous ouvrir les yeux. Parce que notre problème, justement, est qu'on ne se voit pas toujours tel que nous sommes. Nous sommes aveugles sur notre état. Qu'est-ce qui peut être la cause de son aveuglement à cette Église de Laodicée? Eh bien, les richesses matérielles. La ville de Laodicée était un centre commercial et bancaire important, au carrefour de trois grandes routes. Le verset 17 nous dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Fin de citation. Les richesses matérielles peuvent être un signe de la bénédiction de Dieu, mais peuvent devenir un piège si on s'appuie sur elles au lieu de s'appuyer sur Dieu. Parce que la séduction des richesses aveugle et étouffe la parole de Dieu, en la rendant infructueuse, selon l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 19. L'argent fait convoiter. On veut remplir son cœur en possédant toujours plus, dans une société qui nous pousse à consommer toujours plus. La tentation existe aussi pour l'Église, lorsqu'elle soigne plus l'apparence extérieure, par les fastes et les richesses, oubliant l'esprit de l'évangile. On cherche notre joie ailleurs que dans le Seigneur. On se croit heureux, mais on ne sait pas qu'on est malheureux. L'argent appelle l'argent et ne satisfait pas. Il donne des joies qui ne durent pas. Alors on en veut toujours plus. De nos jours, les plus riches deviennent encore plus riches et les plus pauvres deviennent encore plus pauvres dans certains pays, comme en Afghanistan, où les gens vont jusqu'à vendre leurs propres enfants pour manger, à cause du régime des talibans. Autre conséquence de mal utiliser ses richesses, eh bien, c'est qu'on néglige la prière. Pourquoi prier si on prétend n'avoir besoin de rien ni de personne comme l'église de Laodicée? Négliger de prier, c'est couper la communication avec Dieu qui seul nous ouvre les yeux. Alors on devient aveugle spirituellement sur soi et sur les autres. Vouloir se passer de lui est la cause et la conséquence du péché qu'Adam et Ève ont expérimenté. Sauf que eux se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ont eu honte, à la différence de l'église de Laodicée qui ne savait même pas qu'elle était pauvre, aveugle et nue. Aussi, les richesses peuvent amener l'orgueil en prétendant qu'elles sont le résultat de nos seuls efforts, alors que c'est le Seigneur qui nous les donne. On a cette mise en garde dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 17, je cite « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Fin de citation. Cette église se croyait aussi riche intellectuellement. Elle avait goûté aux bénédictions, aux dons du donateur, mais ne voulait plus du donateur, voulant juste garder le don. Elvis Presley avait grandi dans une église où on chantait beaucoup de gospel, où il avait appris des chants chrétiens dans sa jeunesse. Mais il a utilisé ses dons musicaux pour devenir une star du rock'n'roll, une idole au sens propre du terme, choquante aux yeux des églises. Il plaisait à beaucoup de femmes et il est mort jeune d'une crise cardiaque et drogué. Une église est tiède lorsqu'elle a une morale toute humaine, morale qu'elle s'est fabriquée elle-même, décidant elle-même de ce qui est bien et ce qui est mal, de ce qui est juste à ses propres yeux, prétendant tout connaître par soi-même. Et ce faisant, elle remplace la justice infaillible de Dieu, qui est le juge suprême, par sa propre justice, mettant de côté l'autorité de la parole de Dieu, la Bible. C'est aussi malheureusement ce qu'on constate à l'extérieur de l'Église, dans une société qui veut de plus en plus se passer de Dieu. Le Seigneur aurait préféré la voir nettement froide, cette Église de Laodicée, par un désaccord clair et clairement exprimé, Seigneur, pourquoi tu permets telle ou telle épreuve dans la vie de l'Église? Es-tu vraiment juste? Es-tu seulement au courant de ce que nous traversons? Est-ce que tu nous aimes vraiment? Poussé à l'extrême, le froid devient glacial. Et là, ça ne concerne plus les chrétiens, mais plutôt les non-croyants, les athées convaincus que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, pourquoi permet-il tant de malheurs dans le monde? Et pourtant, ce sont de telles personnes, glaciales, qui, lorsqu'elles se convertissent en se repentant de leurs péchés et en s'appropriant pour eux-mêmes le sacrifice de Jésus sur la croix pour leur salut, eh bien ce sont de telles personnes qui peuvent devenir des chrétiens bouillants pour le Seigneur. Ou alors le Seigneur aurait préféré la voir nettement zélée, bouillante pour lui, cette église de Laodicée. Cœur vaillant pour le Seigneur, brûlons d'un amour pour lui, loin du péché, et répandons l'évangile pour le faire connaître. Mais dans la réalité, cette église n'a rien d'une hostilité froide envers Christ et n'a non plus aucun zèle bouillant pour lui. Elle est composée de chrétiens de nom, apathiques, qui sont dans l'indifférence générale. Un tel souffre, et alors? Un tel couche avec un tel sans être marié? Et alors? Tout le monde le fait, on est au 21e siècle. Les gens meurent sans avoir entendu l'évangile et vont à leur perdition. Et alors? On a affaire à une église prétendant tout connaître, tout posséder, autosuffisante, avec ses richesses bien apparentes, orgueilleuses, indifférentes aux souffrances des autres. Mais cette église, elle n'avait plus le principal, Christ. Christ qu'elle a d'ailleurs laissé à la porte, puisqu'il frappe à la porte de sa propre maison. Résultat, l'église a un contre-témoignage devant des non-chrétiens qui se disent « puisque c'est ça l'église, alors ça sera sans moi ». C'est non seulement pour elle, mais pour les gens de l'extérieur que le Seigneur ne va pas la laisser dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il en est et reste le seul propriétaire. Son église lui appartient parce que c'est lui qui l'a créée. Il l'a acquise au prix de son propre sang, versé pour nous, pour qu'elle soit son épouse et lui son époux. Alors, il ne va pas la laisser comme ça. Voyons mon deuxième point. Comment une église tiède peut redevenir bouillante pour le Seigneur? Comme dans les autres lettres, le Seigneur se présente d'une façon qui réponde spécifiquement aux besoins de l'église dont il est question. Ici, le Seigneur se présente comme, je cite verset 14, « l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu ». Fin de citation. Le mot « Amen » veut dire « ainsi soit-il ». Pas étonnant qu'il apparaisse dans la dernière des lettres aux sept églises, parce que la parole de Dieu est certaine, elle s'accomplira certainement. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20, nous dit « Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. » Quand nous disons « Amen », nous reconnaissons que Jésus est l'Amen et le témoin fidèle et véritable. Témoin de qui? De son Père. Il nous a fait connaître Dieu et son amour pour qu'il soit aussi notre Père et que nous rentrions dans sa famille. On peut donc bâtir notre vie sur lui. Mais là, on a affaire à une église incapable de prendre une décision, de dire oui ou non. Cette église infidèle ne devait pas souvent dire « Amen » ou le disait sans conviction, parce qu'elle avait laissé Jésus à la porte. Certaines églises étaient en train de reproduire la même vieille désobéissance qui était celle d'Israël. Rien de nouveau. Les chefs religieux juifs avaient rejeté Jésus, le Fils de Dieu, propriétaire du peuple juif, qu'il avait voulu se former pour lui. Et voilà que ça recommence chez les chrétiens cette fois. Toujours le peuple de Dieu, mais élargi aux nations non juives. C'est grave, parce que Dieu est allé jusqu'à donner ce qu'il a de plus précieux, son propre Fils pour nous. Lorsque nous croyons en Jésus et nous repentons, nous rentrons dans la famille de Dieu. Littéralement, nous devenons ses enfants. Parce qu'en acceptant son Fils, eh bien, Dieu est devenu notre Père céleste. Toi qui écoutes en ce moment, es-tu enfant de Dieu? Eh bien, si c'est le cas, tu as obtenu des droits. Laodicée veut dire justice, droit du peuple. Quels sont ses droits? Eh bien, un enfant de Dieu a les mêmes privilèges qu'un enfant a auprès de son Père, à savoir droit à l'héritage. Plus que cela, nous avons obtenu les mêmes droits que Jésus lui-même, devenu notre frère aîné, droit acquis par son sacrifice à la croix. Mais c'est justement parce que nous qui croyons en Jésus sommes devenus membres de la famille de Dieu que nous avons obtenu aussi un autre droit, inhérent aussi à toute famille. Voulez-vous savoir lequel ? Voulez-vous connaître vos droits en tant qu'enfant de Dieu le Père, vous qui croyez en Jésus ? Eh bien, c'est celui d'être corrigé par le chef de famille, Dieu lui-même. Si vous êtes parent, combien de fois vous êtes-vous senti poussé à réprimander votre enfant que vous chérissez pourtant, justement parce que vous l'aimez ? Dieu le Père peut être amené à châtier ses enfants parce qu'il nous aime pour nous éviter la catastrophe. Voici ce que dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 8. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Fin de citation. Dieu nous châtie tous pour notre bien, voir Hébreux 12, verset 10. Parce qu'il nous aime tous. Au verset 19 de notre texte, nous lisons « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Fin de citation. Alors, ne nous étonnons pas lorsque nous nous sentons réprimandés par Dieu. Tout chrétien passe par là, c'est normal. Alors, le Seigneur ne rejette pas l'église de Laodicée parce qu'elle fait partie de sa famille, même si elle l'a rejetée. Lui, au contraire, n'est pas tiède ni indifférent. Le Très-Haut en a même la nausée, écœurée. Il lui dit qu'il va la vomir de sa bouche, verset 16. Mais on vomit forcément par la bouche, n'est-ce pas ? Pourquoi cette précision ? Eh bien, c'est par sa parole qu'il va reprendre l'église de Laodicée. Comment le Seigneur va-t-il la vomir de sa bouche ? En lui donnant un conseil étonnant, pas un ordre. Une église qui prétend n'avoir besoin de rien ni de personne ne reçoit pas d'ordre. Voilà le conseil du Seigneur. Achète-moi. Verset 18 de notre texte nous dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » Fin de citation. En fait, le Seigneur conseille à cette église de lui acheter ce qui n'a pas de prix, c'est-à-dire de l'or éprouvé par le feu. Il s'agit de sa parole. La parole de Dieu devrait être notre plus grande richesse, parce qu'elle est éprouvée. Elle est fiable à 100%, bien plus précieuse que l'or. Le psalmiste l'avait bien compris. Nous lisons dans le psaume 119, verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Et dans le psaume 119, toujours verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Fin de citation. Laodicée était aussi un important centre textile et de confection. Eh bien, le Seigneur conseille à l'Église de lui acheter des vêtements blancs pour que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Il s'agit du vêtement du salut, cette robe blanche qui symbolise le pardon des péchés et que reçoit toute personne qui croit en Jésus. Vous l'avez compris, la valeur de cette robe est inestimable. Et enfin, le Seigneur conseille à l'église de Laodicée de lui acheter un collier pour les yeux pour qu'elle voie. Et elle savait très bien ce que c'était qu'un collier, car Laodicée était aussi un centre médical. Pour que ses yeux s'ouvrent, il lui fallait répondre à l'invitation du Seigneur et réaliser qu'elle ne peut pas s'acheter ce que le Seigneur lui propose et qui n'a pas de prix, ou plutôt qui a le prix de son sang versé pour nous. Elle qui pourtant se croit si riche. On comprend alors pourquoi Jésus s'est présenté comme, je cite, « le commencement de la création de Dieu », verset 14. Non pas dans le sens qu'il a été créé, mais que c'est lui, Jésus, qui a tout créé et donc que tout lui appartient déjà, y compris les richesses que cette église croit posséder. L'apôtre Paul avait écrit à l'église de Colosse et à celle de Laodicée, en Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Fin de citation. Lorsque cette église se rendra compte qu'elle ne peut rien acheter du Seigneur, à qui tout appartient déjà, que sa monnaie d'échange ne vaut rien, là, elle se rendra compte qu'elle a besoin du Seigneur, qui donne gratuitement, par pure grâce, sans rien payer, ce qu'elle ne peut pas se payer. Et c'est là qu'il frappe à la porte. Pas à la porte de l'Église, mais à la porte des cœurs, individuellement, poliment, sans forcer pour entrer, en nous rappelant le prix le plus élevé payé à la croix par amour pour nous. Il va appeler ce qui est sien. Encore un effet de sa grâce, celle qui devrait conduire à la vraie repentance. Il faut non seulement entendre sa voix, mais obéir à son conseil, lui ouvrir son cœur. Et alors, si vous l'accueillez, c'est lui qui vous accueillera à son tour pour un souper en tête à tête. Et suit une autre promesse à cette église dépassant toutes les précédentes. D'ordinaire, un roi ne partage pas son règne. Or là, le Seigneur offre à des chrétiens tièdes devenus bouillants de s'asseoir avec lui sur son trône pour régner avec lui pendant son règne de 1000 ans, voir Apocalypse chapitre 20 verset 4. Ce règne que le diable a toujours voulu voler au Seigneur, eh bien le Seigneur l'offre gratuitement à celui et celle qui se soumettent à sa volonté. Quelle grâce ! Pour autant, eh bien, cette lettre à Laodicée est là pour nous dire que le Seigneur ne rejette pas son Église, même celle qui l'a rejetée, parce qu'elle reste sa propriété. Plus que cela, sa famille qu'il s'est lui-même créée. Mais nous pouvons être sûrs qu'il saura reprendre celle qui l'a rejetée, qui s'est éloignée de sa parole. Alors c'est une exhortation à veiller, parce que l'Église a toujours besoin de Christ, son époux, même quand tout semble aller bien, ne serait-ce que pour nous apprendre à partager avec les autres. Alors ne désespérez pas si votre propre famille vous a fermé les portes. Gardez le contact, priez pour eux. Et si tu es dégoûté des autres, du monde ou de toi-même, le Seigneur aussi a eu la nausée. Il te comprend et il frappe à la porte de ton cœur, que tu sois chrétien ou pas. Laisse-le entrer, parle-lui seul à seul dans la prière, accueille-le et lui t'accueillera pour trouver ou retrouver la communion avec lui.
Apocalypse, chapitre 3, verset 20.